Cette émission de passage à Lourdes à Associe de Riche, qu'elle nous permet de recevoir vraiment une très grande diversité de personnes. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui a eu un parcours de directeur des ressources humaines dans une grande banque nationale, qui est très impliqué dans le monde sportif comme secrétaire général d'un club où il y a 8000 adhérents. Il est également impliqué dans ce qu'on appelle LCE, qui est Lourdes Cancer Espérance, un pèlerinage à Lourdes, mais qui est aussi une association qui a une vie toute l'année. Francis Stress, bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai résumé en deux ou trois phrases là votre parcours. On va en dire beaucoup plus au cours de cette émission avec vous. Vous m'avez, avant de commencer, donné deux ou trois chiffres sur votre vie professionnelle. C'est 15 postes différents, des mutations, plus de 10. Vous êtes marié, vous avez deux enfants, marié à Martine, qui était infirmière, et infirmière dans des blocs opératoires. C'est une vie où il faut toujours être assis sur sa valise, non ? Parce qu'on sait que ça va bouger tout le temps.
Alors c'est une vie effectivement professionnelle très dense. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'on est assis sur sa valise, mais en tout cas, on est amené à avoir des contrats, on pourrait dire, de 3 ans. Et donc, les contrats de 3 ans professionnels, c'est la première année, c'est évidemment de découvrir l'environnement, la structure, et puis ensuite, véritablement de récolter ce qu'on a semé au niveau de l'entreprise, avec les hommes, les femmes de l'entreprise. Et puis déjà, en troisième année, on se dit que... La fin du parcours est déjà arrivée et on est amené donc à reprendre sa valise, sachant que c'est quand même, et c'est important je crois à dire, c'est du volontariat. C'est-à-dire que moi-même, dans mon parcours, 45 ans dans la même entreprise, je sais que ça fait rire aujourd'hui, ou c'est étonnant, mais 45 ans de voyage, mais qui ont été consentis. C'est-à-dire qu'il y a eu parfois des mutations qui ont été refusées. Hein. Et justement, ça rejoint... Ce qui a été dit tout à l'heure, ce sont des choix professionnels, mais naturellement partagés avec mon épouse Martine et les enfants. Mmh. C'est-à-dire que lorsque la proposition arrivait, on était amené le soir, si j'ose dire, à faire une réunion de famille en disant, voilà, on me propose ça, qu'est-ce qu'on fait ? Avantages, inconvénients, sujets à mettre sur la table, etc.
Alors la question qu'on va vous poser hein, dans tout ça, c'est la place bien sûr pour la famille, la place pour d'autres engagements quand on a une telle vie professionnelle, la place pour la foi, comment on fait ? Sachant que DRH, directeur des ressources humaines, c'est quelqu'un qui certes a une attention à la personne, à son parcours professionnel, à voir qui doit être à la bonne place, avec quelles compétences, mais c'est également quelqu'un qui peut-être fait du plan social, demande à des gens de partir. C'est tout ça votre vie, non ?
Alors, c'est une vie...
C'est de la formation aussi, bon.
Oui, c'est une vie qui est... Enfin, un poste ou une responsabilité qui est très large et qui est passionnante. Enfin, on ne peut pas faire ce métier-là 7 fois, je crois, DRH, dans la même entreprise, sans être passionné, alors avec des joies et des peines. Alors les joies, c'est bien sûr de constater la progression des collaborateurs. Ça me paraît très important et on le retrouve d'ailleurs dans d'autres facettes de la vie. Évidemment, un DRH qui a la chance d'embaucher, puisque moi j'ai beaucoup embauché dans les années 80, 90, 2000, et de voir le collaborateur qui a grandi grâce à la formation, grâce à son talent aussi, grâce à ses chefs, c'est toujours très... très enrichissant, réussir aussi des réorganisations, puisque à la banque, on peut imaginer qu'en 45 ans, l'organisation, les process ont largement évolué. Donc ça, c'est le côté positif, facile. Et puis des côtés plus difficiles, alors effectivement, la réorganisation, ça peut passer par des changements de poste contraints pour les collaborateurs. Ça peut passer par quelques incidents de parcours. Voilà. Mais c'est un poste effectivement très, très passionnant.
Oui, puis quand on touche à la patte humaine, inévitablement, il y a de la sidération, des surprises, des drames aussi. Vous vivez tout ça dans ces postes successifs, y compris des collaborateurs qui choisissent ultimement le suicide. Ou, enfin, voilà.
Alors, c'est des cas extrêmes, mais ça a été effectivement vécu et c'est très difficile parce que... comme dans la vie, j'allais dire civile, on se pose des questions en disant mais qu'est-ce qu'on a raté ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est que vous disiez, vous parliez de patte humaine. C'est une réalité parce que on peut avoir aussi un certain nombre d'idées, de mutations, de plans de carrière pour les collaborateurs. Et parfois, ceci, alors on se dit, tiens, on va proposer ce poste à quelqu'un, il va jamais vouloir ou ça va pas lui plaire. Étonnement, on a tombé juste et c'est le bon plan. Et d'autres, c'est complètement l'inverse. Donc tout ça pour dire que
Faut avoir de l'humilité sur ces questions.
l'humilité, et puis on ne peut pas raisonner que par rapport à soi. C'est-à-dire qu'on a ses propres idées, ses propres règles du jeu, ses propres cercles de référence. Et on le voit aussi dans d'autres occasions de la vie. Cette patte dont vous parliez, elle est différente et elle est unique pour chaque personne.
Alors, on va pas parler que de votre parcours professionnel dans cet entretien. Mais une question aussi quand même, c'est que vous avez travaillé dans une grande banque. Or, un des critères de réussite d'une banque, c'est le résultat, hein. Résultat financier, économique. Donc forcément, vous avez vécu avec cette pression-là durant toute votre carrière. Parce que on met une personne au bon endroit pour qu'il fasse du chiffre. On aurait peut-être dû dire ça aussi pour commencer. Non? Je vous provoque, hein, à souhait,
Non,
mais...
non, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que personne ne croira que la banque ne souhaite que le bien de ses collaborateurs et n'ait pas d'argument commercial, financier fort. Donc c'est vrai que le DRH était chargé effectivement, de faire le bon casting. Et peut-être qu'on parlera de sport tout à l'heure, mais de mettre les gens qui peuvent être gardiens de but à cette place-là et pas numéro 10. Et donc c'est vrai que c'était un challenge d'essayer effectivement de... C'est tout l'enjeu des plans de carrière, hein, de mettre effectivement les collaborateurs à leur place où ils vont, entre guillemets, produire. Mais l'idéal, c'est évidemment d'être dans relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand la personne est bien dans son poste, il va bien produire et il sera utile pour l'entreprise. Donc l'idée, c'était plutôt d'avoir cette relation gagnant-gagnant que d'avoir des prises de poste un peu forcées. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
Est-ce que vous avez été un DRH, on va dire, ou dans vos responsabilités en général, pétri d'humanisme chrétien? Est-ce que les valeurs chrétiennes habitaient aussi vos décisions? Ou vous diriez que ça, c'était ailleurs,
Ah non, non,
sphère
c'était
privée,
ah
autre chose?
pas ailleurs.
Non,
C'était dedans.
c'était dedans.
C'était dedans, dans la mesure où... ne rêvons pas, il s'agissait d'incarner la politique de l'entreprise. Mais à ce moment-là, en tout cas, on avait suffisamment de marge de manœuvre pour essayer de l'incarner de manière humaine. Et il est possible, il était possible, en tout cas, d'avoir ce regard-là. Je vais prendre un exemple qui est assez précis et très connoté RH, c'est les entretiens professionnels. Dans un entretien professionnel, c'est un truc un peu lourd hein, pour la personne. Tous les ans, on lui dit, on fait le bilan, quoi. Bon. Et moi, je méditais, je dénotais peut-être un peu, en disant, attention à la formulation. Et par exemple, quand vous dites, quelqu'un a mal travaillé, c'est complètement différent de dire, le dossier a été maltraité, et ça pose un problème, plutôt que de dire, écoute, mon ami, t'es pas bon, t'as été nul là-dessus. Donc là, l'idée pour moi, c'était de qualifier le travail et pas la personne. Et ça me paraît en tout cas un fondement important parce que la personne aussi a sa vie, peut avoir des moments de rupture, il peut y avoir aussi des sujets tout simples de formation parce que la personne n'appréhendait pas ce sujet-là. Enfin voilà. Donc, et pour rester aussi sur cette dimension-là, on sait bien que quand on organise des mouvements, des mutations de collaborateurs, si on peut faire en sorte que ça arrange. Où ça dérange le moins possible. La personne, c'est aussi bien. Donc, c'est un équilibre un peu subtil entre la vision et la responsabilité de l'entreprise, vue par l'entreprise, et la vision humaine individuelle.
Je reformule un peu ma question. Est-ce que les valeurs, disons, chrétiennes, habitaient à ce moment-là, votre façon d'exercer votre métier, ou bien, bon, peut-être que vous aviez eu une éducation chrétienne, mais que ça ne convergeait pas vers vos décisions, vers ce que vous faisiez professionnellement.
Si, je pense que j'ai été influencé d'ailleurs par ma foi.
Oui.
Foi d'ailleurs que, en exercice, je n'ai jamais caché.
Foi revendiquée.
Oui. Qui m'est arrivée
pendant votre
de...
parcours.
Alors.
Mais de façon.
Alors c'est sûr que c'est un exercice un peu complexe, mais peut-être prenons un exemple aussi. Il m'est arrivé de participer à des célébrations concernant les événements des collaborateurs. Style, le collaborateur, il se marie.
Oui.
Le collaborateur perd sa femme. Alors, pas le cousin, mais quelqu'un de proche pour lui. Et donc, il m'est arrivé déjà d'aller donc lors des célébrations. Bon. C'est pas tous les DRH qui font ça. Bon. Et deuxième sujet, il m'est arrivé d'aller communier. Et les gens le voyaient. Et cela a été d'ailleurs de belles occasions de dire avec des personnes hein, qui m'ont interpellé en me disant « Mais monsieur, on ne savait pas que vous étiez catholique, voilà, et il faut que je vous dise, mais comme ça, ça n'a rien à voir avec le boulot, mais que moi-même, je suis très engagé dans ma paroisse, etc.
Ouais. »
Donc voilà, mais c'est quand même à petite touche et lorsque l'occasion est véritablement donnée.
On a l'occasion d'approfondir ça après, si vous voulez bien, Francis Tresse. Mais est-ce que vous pourriez dire qu'il y a eu une frustration quand même sur ce plan-là pendant toute cette carrière professionnelle? Parce que bon, vous vivez votre foi, sans doute le week-end, le dimanche, mais vous ne pouvez pas donner tout ce que peut-être vous avez envie de donner à l'Église ou justement en termes de témoin et de mission. Vous allez vous rattraper sans doute après, parce que vous êtes à LCE maintenant.
Sûrement, je pense que c'est une belle session de rattrapage que j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai. Mais ce que je rajouterais, c'est que une autre dimension est à prendre en compte, c'est le fait que les mutations, donc c'était 3 ans, et que 3 ans, ça, c'est difficile de pouvoir s'engager dans une responsabilité, qu'elle soit sportive, qu'elle soit paroissiale, c'est difficile. Parce qu'on sait que le laps de temps est assez compté.
Avant de marquer une pause et puis de parler après de votre engagement au sein d'un club sportif important, au sein de Lourdes Cancer Espérance, qu'est-ce qui vous reste de ces années de DRH, de directeur des ressources humaines? Sans doute que vous vous dites aujourd'hui, si j'avais écrit un bouquin, bon, il y a des lignes forces quand même. Il y a 2 ou 3 idées sur lesquelles vraiment j'ai aujourd'hui la certitude que ça tient la route. Vous nous avez dit dissocier la personne de ses actes. Je sens qu'il y a quelque chose là. Il y a peut-être d'autres idées forces comme ça qui vous tiennent à cœur.
Non, une idée force aussi, mais elle est un peu personnelle et par rapport à l'entreprise, c'est que moi je remercie l'entreprise d'avoir permis une trajectoire, puisque moi j'ai pas fait d'études.
Voilà. Vous n'avez pas fait d'études?
Non, moi je suis rentré à la banque au service du courrier. Service du courrier, et donc la progression a été extrêmement significative en termes de responsabilité et de statut. Bon. Et donc, c'est, je pense, la réunion de... Alors, à la fois d'un travail personnel, quand même, mais aussi d'une entreprise qui permettait, je prends l'imparfait exprès, qui permettait de progresser et d'offrir, en tout cas, des opportunités de carrière, avec aussi, ici ou là, des rencontres.
Donc vous nous dites, il faut que notre société, les entreprises en général, soient audacieuses pour que cet ascenseur social continue à fonctionner.
On peut le dire comme ça. Et donc, ça a été... moi, ce qui m'a marqué, c'est ça. C'est le fait de pouvoir d'abord réaliser sa vie professionnelle. Parce que c'est quand même un sacré truc. Parce que ça conditionne aussi le reste. Et puis aussi d'avoir fait beaucoup de rencontres. Parce que j'ai encore des amis un peu partout. Hein, des amis croisés, par exemple, je vais rencontrer la semaine prochaine à Nevers il y a 40 ans, dans le cadre professionnel, et un employé. Donc c'est vraiment... Enfin, la partie humaine, sinon on ne serait pas DRH, la partie humaine, elle est très intéressante.
Francis Tresse, on va voir qu'à 69 ans, vous avez encore non seulement beaucoup d'énergie, mais encore beaucoup d'occupations et de responsabilités. Alors plus dans le domaine professionnel, puisque vous avez pris votre retraite vers l'âge de 64-65 ans. Hein. Mais on va voir que vous êtes engagé juste après la pause. À tout de suite.
De la musique, de l'opéra et des experts tous mélomaniaques. Voici Mélomanie. Amoureux ou amateurs de musique classique, venez partager l'analyse et le coup de cœur de nos chroniqueurs. Mélomanie, une émission animée par Éric Dupri,
le vendredi 19h et le samedi 10h03,
en partenariat avec Amadeus Piano.
De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Aujourd'hui, nous sommes avec Francis Tress. Francis, vous êtes le délégué de la Gironde pour Lourdes Cancer Espérance. J'aurais dû vous présenter d'abord comme ça parce que vous êtes de passage à Lourdes en raison justement de cet engagement à Lourdes Cancer Espérance qui est assez récent, enfin qui date pas de plusieurs de plusieurs décennies, mais de plusieurs années. Et vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes engagé. Nous avons, dans la première partie de cette émission, expliqué que vous avez un beau parcours professionnel avec beaucoup de postes, beaucoup de mutations dans une grande banque, des ressources humaines, des engagements aussi au-delà des ressources humaines sur des questions, bien sûr, de finances, des questions de formation, d'accompagnement des personnes dans le changement. Bon, toutes ces questions qui sont la vie professionnelle d'un DRH. Avec des convictions qui sont chevillées au corps, que la personne, c'est d'abord elle qu'il faut prendre en compte, avec aussi cette reconnaissance que vous avez exprimée par rapport à une société qui vous a permis de partir de rien pour arriver haut. Vous n'étiez pas diplômé ou surdiplômé, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, vous êtes à LCE, Lourdes Cancer Espérance, mais également secrétaire général d'un club, le SAM, le sport.
Le sport athlétique mérignacais.
Mérignacais. 8000 adhérents. Ouais. Donc ça vous passionne. Hein.
Alors effectivement, donc c'est le sport athlétique mérignacais. Donc voilà. À Mérignac, je rappelle, ville importante de la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y a 71 000 habitants. Il y a des ambitions mérignacaises à 100 000 habitants dans quelques années. Et donc c'est vrai que, étant de nature sportive, ayant fait du management, j'ai eu l'occasion, donc en 2011, donc 3 ans avant la retraite, d'occuper un poste de secrétaire général de cette structure, poste qui est là aussi très intéressant puisqu'il s'agit de faire en sorte que le club fonctionne avec aussi, alors c'est une association, loi 1901, mais avec beaucoup de bénévoles, mais nécessairement en fonctionnant comme une entreprise, c'est-à-dire en ayant des réflexes d'entreprise, en ayant des textes de référence qui soient très précis, comme les statuts, le règlement intérieur, le règlement financier, le guide du trésorier, le guide RH. Donc, j'ai profité aussi de mon expérience pour structurer un peu ça et pour faire en sorte que les sections ne dépendent pas uniquement de la bonne volonté du président respectif de la section, mais qu'ils puissent s'appuyer à la fois sur des textes, mais aussi sur une dimension omnisport, c'est-à-dire le siège en fait, qui appuie l'action des sportifs sur la partie communication, DRH, comptabilité, etc.
Vous avez encore un bon niveau, je pense. Enfin, je dis encore. À 69 ans, vous faites encore de la compétition.
Merci pour le encore.
Oui, pardon. On pourrait l'enlever au montage, mais on va peut-être pas l'enlever parce que je l'assume, mais pardon. Oui.
Non, c'est une passion qui existe depuis, alors là, presque 50 ans. 50 ans de compétition. Alors je fais un tout petit retour sur la mobilité professionnelle. Une des choses qui était faite en début de chaque mutation, une fois que la maison était trouvée, c'était de trouver le club dans lequel je pouvais faire un peu de ping et du pong. Et donc je reviens au SAM où c'est effectivement une grosse usine, mais très, enfin usine de sport, mais là aussi très, très diversifiée puisqu'on a à la fois des sportifs de bon niveau, d'excellent niveau, avec des champions de France, mais aussi il y a le sport loisir. Et puis il y a une autre chose aussi qui me paraît important, qui est que sur les 29 sections, il y en a 28 un peu, enfin il y en a 27 traditionnelles. Il y en a une qui s'appelle le sport loisir, c'est-à-dire qui n'est pas spécialisée dans un sport, mais qui permet de prendre des jeunes de 3 ans jusqu'à plus tard. Mais aussi, et ça rejoint peut-être un peu la dimension chrétienne, catholique, c'est un service de cohésion sociale. Et la cohésion sociale, on est parti du fait de dire qu'on essayait de permettre la pratique du sport à toute personne. Donc aux personnes en situation de handicap, physique, mental. Et donc il y a du sport adapté qui est fait, il y a de grandes réussites. On vient de créer une équipe de Cécifoot, donc le foot pour les personnes non-voyantes. Et c'est une dimension qui, certains diront que c'est tendance. parce qu'on est accompagné aussi par des fondations, par des organismes publics. Mais je ne peux pas cacher la joie que nous avons quand on voit des sportifs en fauteuil sourire, éclater de rire, être très satisfait. Moi, j'ai des images extraordinaires de personnes notamment qui ont découvert et qui sont dans les meilleurs de France sur une pratique qui s'appelle la boccia. Alors, les auditeurs ne connaissent pas. La boccia, c'est de la pétanque sur fauteuil en utilisant une rampe. Bon. Et ça, c'est des gens, des amis, qui, il y a quelques années, n'auraient jamais imaginé faire du sport. Et là, ils font du sport, ils s'entraînent, et puis ils connaissent les joies d'un match, d'une rencontre, d'une qualification. Et on est en 16e de finale, puis en 8e, puis en quart. Et là, c'est l'explosion. Donc là, on est un des rares clubs hein, de la Nouvelle-Aquitaine à avoir cette dimension-là. Mais c'est également très important et ça rejoint d'autres convictions.
Oui. Ces autres convictions qui sont notamment exprimées par cet engagement auprès de l'Ordre Cancer Espérance, pour ce qui vous concerne. Alors vous en êtes le délégué pour la Gironde. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes engagé pour ce pèlerinage, alors qu'il est une grande association nationale avec des délégations et puis un grand pèlerinage à Lourdes qui rassemble des milliers de personnes. Pourquoi ?
Deux raisons essentielles.
Oui.
D'abord, ma volonté de revenir à Lourdes. Quand je dis revenir, parce que comme tout le monde, je connais Lourdes par l'aspect un peu touristique, mais occasion de revenir sur les terres de Bernadette, de Marie, d'approfondir la foi. Ça, c'était important. Cette notion de pèlerinage est également importante parce qu'au-delà de l'individuel, il y a du collectif. Et puis l'engagement aussi, c'était pour, en me disant, j'ai passé beaucoup de temps à la banque, je passe du temps pour l'organisation sportive, mais il en reste. Et donc c'était pour, apporter mon énergie, ma disponibilité aux malades de Lourdes Cancer Espérance. Et le premier contact s'est fait de manière extrêmement,
simple.
Simple, voilà. En voyant une affiche dans ma paroisse, je vois une affiche Lourdes. Enfin, il y avait des propositions pour tous les pèlerinages de Lourdes. Et mon premier choix, je le dis, je ne devrais pas le dire d'ailleurs, c'est plutôt porté sur la date du séminaire qui correspond à des disponibilités plutôt que le slogan la première fois Lourdes Cancer Espérance.
Donc vous avez dit septembre, puisque
septembre,
c'est toujours,
ça me va bien. Voilà.
Ça me va bien, ouais. Puisque c'est toujours en septembre que se déroule ce pèlerinage.
Et par contre, ce qui a été essentiel. C'est le contact que j'ai eu avec la déléguée, qui était en poste depuis 10-12 ans, qui était passionnée, et un contact téléphonique d'une heure à peu près. Ben voilà, on a échangé, on s'est découvert, et j'ai découvert Lourdes Cancer Espérance, c'était en juin 2015, et donc en septembre 2015, donc j'ai participé à mon premier pèlerinage.
Et là, ça s'est bien passé.
Et là, ça a été... c'était aussi en étant, pèlerin ordinaire, mais en charge d'une personne que je roulais et que je ne connaissais pas. Et ça s'est très bien passé, à telle enseigne que lorsque un délégué de l'époque, à la fin du pèlerinage, fait un peu un tour de table en disant hey, « les nouveaux, là, qu'est-ce que vous en pensez ?» Moi, j'ai dit « Le premier pèlerinage, c'est bien, mais j'aimerais bien voir ce que c'est que le deuxième. »
Ah oui.
Voilà, donc ça, ça me paraissait évident et vraiment. Depuis 2015, la date du mois de septembre, elle est complètement cochée sur l'agenda. Et donc, je ne mettrai rien d'autre à la place. Ça, c'est un sujet. Puis moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait que la rencontre, enfin la vie LCE, elle n'est pas uniquement faite du pèlerinage. Elle est ponctuée par des journées d'amitié. Donc, au sein de notre délégation, on est 160 dans la délégation et une centaine au pèlerinage. Il y a 5 journées d'amitié en moyenne hein, qui s'organisent pendant l'année. Ce qui veut dire que le contact qu'on a noué entre 2015 et 2016, il perdure, enfin, il s'intensifie, il se densifie pendant ces 5 journées. Et puis, au-delà de ça, ben, évidemment, il y a des amitiés, des complicités qui se créent. Il y a aussi une chaîne de... On le voit plus en tant que délégué, bien sûr, d'attention. Beaucoup d'attention à ceux qui ne vont pas bien. D'attention aux malades, d'attention à ceux qui ont des malheurs dans leur famille. Et donc, c'est... Voilà, je suis tombé dans LCE et j'imagine pas que cette envie, cette passion diminue. Au contraire, elle est plutôt en accélération.
On va bientôt terminer cet entretien avec vous, Francis Tresse, mais on a beaucoup parlé de vos valeurs au cours de cette émission, celles qui ont nourri votre action professionnelle, votre engagement dans le monde sportif. Et puis, vous nous avez dit, LCE, ça a été aussi la volonté d'approfondir ma foi. Donc, on passe des valeurs à la foi. Enfin, on est sur un registre autre, là. On n'est plus seulement sur le terrain des valeurs. Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau ou peut-être qu'est-ce qui a enrichi votre foi une relation au Christ qui s'est renforcée à travers les personnes malades, c'est ce qu'on semble percevoir.
Comment vous l'exprimeriez ? C'est d'abord redire que Lourdes est un lieu magique, où il y a une ambiance particulière. Mais d'une manière plus globale, ça correspond aussi à un engagement paroissial beaucoup plus marqué. Donc tout ça, ça fait un tout. C'est-à-dire que
c'est cohérent tout
Je disais qu'il y a eu la libération, c'est pas le bon mot, professionnelle. Donc la retraite a permis de libérer du temps, et ce temps libéré pour le sport, ça, pour LCE, mais aussi pour, je dirais, vraiment approfondir les textes aussi, parce que les textes, quand même, moi j'en apprends tous les jours. On est en période de carême et en train de vivre une retraite en ce moment. Une retraite. Par mardi interposé, où on approfondit des textes, et je crois que c'est essentiel aussi de pouvoir avoir une meilleure connaissance de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et puis en même temps de constater que il y a des appels. Voilà. Moi, je crois beaucoup aux appels reçus. Je suis de plus en plus dans la dynamique aussi d'appeler. Et c'est vraiment une grande satisfaction de voir des gens qui répondent favorablement à des appels, et parfois sur des sujets même où ils ne sont pas à l'aise. J'ai un cas actuellement où la personne me dit « Mais si tu penses que je suis capable de faire ça, j'accepte et je sais que ça va me faire du bien, je sais que tu vas m'aider aussi, etc. » Donc voilà, donc après un 45 années de grande activité quand même. Le temps est venu aussi de plus de réflexion, d'approfondissement, de prise de recul.
Mais toujours la mission. Enfin, en tout cas, on se sent en mission, apaisé, mais en mission. Merci beaucoup pour cet échange, Francis Tresse. Je rappelle, délégué Lourdes Cancer Espérance pour la Gironde.